Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 25, Daf Kaf He. Bonne écoute et bon limoud.
J'ai aussi autogalal, parce que la vanure qui se mêlera au sillon fera en sorte à ce qu'il y ait trop d'engrais dans ce champ, et ce qui abîmera les graines que l'on sèmera par la suite. Nous avons fini ici le shiur de Baba Batra, Daf Kaf Dalet. Nous commençons le shiur de Baba Batra Daf Kafé à la Mishnah en haut de la page. La Mishnah dit Marikin et Tanevelot, il faut éloigner les carcasses des animaux, Vetakvarot et les cimetières, Vetabursuki et les tanneries Minahir de la ville d'une distance de Hamishimama, 50 coudées. Et cela à cause des mauvaises odeurs qui pourraient gêner les habitants de la ville. Enosin Bursuki et la Mizrachahir. Il n'est permis d'installer une tannerie qu'à l'est de la ville. Et cela parce que le vent d'est est le plus doux. Les mauvaises odeurs dégagées par cette tannerie ne risquent pas de déranger les habitants de la ville. Rabbi Akiva Omer, le Chol Ruach Huose, il est permis de faire une tannerie à n'importe quel côté de la ville, Chutz Mima Arava, à part à l'ouest de la ville, Umarchi Kramishimama, et il devra s'éloigner d'une distance de 50 coudées. L'Agmara expliquera. Umarchikin et Hamishra Minayerek, il faut aussi éloigner le bassin où on laisse tremper le lin des légumes, parce que la présence de ce bassin risque d'abîmer les légumes, Veta Krishin Minabtsalim. Et il faut aussi éloigner une plantation de poireaux d'une plantation d'oignons, parce que la présence de poireaux gêne la croissance des oignons. Veta Khardal Minadvorim, il faut aussi éloigner la plantation de moutarde de ruches d'abeilles. Et cela parce qu'elles sentiront leur bouche brûlée après avoir butiné dans les plants de moutarde se trouvant à proximité, et à cause de cela, elles mangeront leur miel. Verabi aussi Matir Bechardal. Et Rabbi aussi permet de planter de la moutarde à proximité de ruches d'abeilles. La deuxième partie de la Mishnah a été longuement expliquée plus haut, Daf Yudret Amudbet. Alors la Gemara reprend le passage de la Mishnah où Rabbi Akiva dit qu'il est permis de faire une tannerie de n'importe quel côté de la ville, mis à part à l'ouest. Puis Rabbi Akiva continue et dit « Il faut éloigner la tannerie de la ville d'une distance de 50 coudées. » Alors Ibaya Lehu, les Chachamim se sont posé la question suivante. Rabbi Akiva Hechika Amar, qu'est-ce que Rabbi Akiva a voulu dire? Le Kol Ruach Huose Besomer, de n'importe quel côté de la ville, il est permis de faire une tannerie, même à proximité de la ville, Chutz Mima Araba, à part à l'ouest de la ville, de Marchik Nun Ama Veose, où il devra s'éloigner d'une distance de 50 coudées pour faire cette tannerie. Odilma, ou bien c'est cela que Rabbi Akiva a voulu dire, le Kol Ruach Huose ou Marchik Hamishimama, de n'importe quel côté de la ville, il peut faire une tannerie tout en s'éloignant d'une distance de 50 coudées, Chutz Mima Araba Deno Seklal, à part le côté ouest de la ville où il est interdit de faire une tannerie même en s'éloignant d'une distance de 50 coudées. Alagma répond Tashma vient coup d'une preuve. De Tanya parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Rabbi Akiva Omer, le Kol Ruach Huose Umarchik Hamishimama. De n'importe quel côté de la ville, il est permis de faire une tannerie tout en s'éloignant d'une distance de 50 coudées. Chutz Mima Araba Deno Sekolikar, à part le côté ouest de la ville où il est interdit de faire une tannerie. Mipne Shehi Tedira, parce que c'est le côté le plus courant. La Gemara expliquera. Amar le Rav le Rav Nachman, Maï te dira. Qu'a voulu dire la Braïta lorsqu'elle dit que le côté ouest est le côté le plus courant? Il est ma te dira beruchot. Si la Braïta voulait dire que c'est le côté où le vent souffle le plus souvent, en d'autres termes, le vent d'ouest souffle le plus souvent, et les habitants de la ville risquent d'être dérangés par les mauvaises odeurs dégagées par la tannerie, c'est impossible. Parce que Veha Amar Rav Hanan Bar Abba Amar Rav, les vents venus de quatre coins du monde, soit l'est, l'ouest, le sud et le nord, soufflent tous les jours chacun une partie de la journée. Et le vent du nord s'associe avec chacun des autres vents pour les adoucir. Parce que si ce n'était pas ainsi, le monde ne pourrait pas tenir, ne serait-ce qu'un petit moment. Nous sommes Baba Batra, Daf Kafé Amudalef, à la 20e ligne du haut de la page. Nous avons vu dans la Mishnah une discussion entre le premier auteur de la Mishnah et Rabbi Akiva, à savoir de quel côté de la ville on peut faire une tannerie. Selon le premier auteur de la Mishnah, on ne peut faire la tannerie qu'à l'est de la ville, parce que le vent d'est en général est toujours doux, il ne risque donc pas d'emmener les mauvaises odeurs à la ville pour gêner les habitants. Rabbi Akiva dit, selon l'interprétation de la Gemara, que de n'importe quel côté de la ville, on peut faire une tannerie en s'éloignant de 50 coudées, mais à l'ouest de la ville, il est interdit de faire une tannerie. Et cela, la Breta l'a expliqué, parce que le côté ouest est le côté le plus courant. Alors la Gemara a demandé, qu'est-ce qui est de plus courant dans le côté ouest? Si la Braïta voulait dire que le vent d'ouest souffle le plus souvent, et par conséquent, si l'on faisait une tannerie à l'ouest de la ville, les mauvaises odeurs risquent de gêner les habitants, c'est impossible, parce que Rav Hanan Baraba a dit au nom de Rav que les vents venant des quatre côtés du monde, donc le vent d'est, d'ouest, de sud et du nord, souffle à tour de rôle une partie de la journée, et ce, tous les jours. Et le vent du nord se mêle aux autres vents pour les adoucir, parce que sans cela, le monde ne pourrait pas tenir. Veroar Dromit Kasham Ekulam, et le vent du sud, c'est le vent le plus fort, donc qui cause des tempêtes. Veilmale Ben Netz Shema Amida, et si c'est noté l'ange appelé épervier parce qu'il prend sa forme, qui l'arrêtait un petit peu en étendant ses ailes, Machrevet et Taolam, ce vent pourrait détruire le monde. Shenehemar, parce que nous voyons dans le pasouk dans Iov Lametet, c'est Akadosh Baruch Hu qui adresse de reproches à Iov, parce que ce dernier doutait de la justice d'Hachem. Entre autres, il lui dit, Hami binatra yaaver netz yifros kenafav leteman. Est-ce que c'est par ton intelligence que l'ange appelé épervier déploie ses ailes, il étend ses ailes vers le sud? De ce pasouk, nous voyons donc que cet ange qui étend ses ailes vers le sud le fait pour arrêter le vent, de manière à ce qu'il ne détruise pas le monde. En tout cas, nous voyons donc dans cet enseignement de Rav Hanan Baraba au nom de Rav, que c'est le vent du nord qui souffle le plus souvent et non pas le vent de l'ouest. Et là, Maïté dira, c'est pour ça que la Gemara dit, qu'a voulu dire la Braïta lorsqu'elle dit que le côté ouest est le côté le plus courant, te dira Beshrina, c'est le côté où la présence divine se trouve le plus souvent. Et c'est pour cela donc, par honneur à la présence divine, qu'on ne fera pas de tannerie qui dégage des mauvaises odeurs à l'ouest de la ville. De Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Bo'u venarzik tova le'avotenu, venons et remercions nos ancêtres, She'odiu makom tfila, qui nous ont fait connaître l'endroit de la prière, en d'autres termes, vers quelle direction il faut se tourner pour prier. Comme le précise le Tosfot, les différents avis que nous verrons ici dans la Gemara sont en désaccord avec la Braïta dans Brachot d'Aflamed, selon laquelle il faut se diriger vers la ville de Yerushalayim pour prier. En effet, comme il est rapporté dans Nechemiatet, les sages de l'époque de Ezra et de Nechemia ont dit entre autres la louange suivante à Akadosh Baruch Hu, « Utzva Hashamayim lecha mishtachavim » et « Les armées du ciel se prosternent vers toi ». En analysant la partie de la course des astres que nous voyons qu'ils se lèvent toujours à l'est, il semble se prosterner en direction d'Akadosh Baruch Hu avant de poursuivre leur course. Apparemment donc, la présence divine se trouve à l'ouest et les astres, en se levant à l'ouest, se prosternent en direction d'Akadosh Baruch Hu. De là, nous apprenons qu'il faut se tourner vers l'ouest pour prier. Matkifla, Rabbi Chabar Yaakov a objecté. Peut-être que ce n'est pas ainsi qu'il faut analyser la course des astres. Peut-être que c'est plutôt Vedilma que Evet Shenotel Pras Mirabo. Peut-être que cela ressemble à un esclave qui a reçu un cadeau de son maître, Bechoser Leachorav ou Mishtachave. Et puis, lorsqu'il se retire de son maître, donc en marche arrière, il se prosterne. Peut-être donc que les astres qui se lèvent à l'est se prosternent vers l'est et poursuivent leur course en marche arrière. Donc finalement, nous ne pouvons pas déduire de ce pasouk l'emplacement de la présence divine. La Gemara conclut là-dessus, Kashia, c'est une question qui est restée sans réponse, la Gemara n'a pas trouvé de réponse sur le moment. Rabbi Hoshaya Savar Shekhina Bekol Makom. Rabbi Hoshaya, lui, pense que la présence divine se trouve en tout endroit, partout, donc il n'est donc pas nécessaire de se diriger vers une direction particulière pour faire la prière. D'Amar Rabbi Hoshaya, Maïdirtiv, que veut dire le pasouk dans Nechemiatet, Ata hu Hashem levadecha, Ata asita et Hashamayim, etc. Tu es toi seul l'Éternel, tu as créé les cieux, etc. Ce pasouk conclut par le passage que nous avons mentionné plus haut, et les armées du ciel se prosternent vers toi. Donc ce pasouk qui donne des louanges sur les émissaires qui remplissent leur mission qu'Akadosh Baruch Hu leur a imposée, nous pouvons en conclure que le début du pasouk va aussi donner une louange à Akadosh Baruch Hu concernant les émissaires. Alors c'est pour cela que Rabbi Hoshaya interprète « Shelouchecha lo keshlouche basar vadam » « Tes émissaires ne se conduisent pas comme les émissaires humains. » Et cela parce que « Shelouche basar vadam mimakom shemishtalchim lesham marzirim shlichutam » quand il s'agit d'émissaires envoyés par un être humain. Alors de là où on les a envoyés pour remplir leur mission, ils doivent aussi y retourner pour dire qu'ils ont rempli leur mission. Aval shluchecha, mais tes émissaires, donc les émissaires d'Akadosh Baruch Hu, le makom shem mishalchim, misham marzirim shlichutam. Là où on les envoie pour remplir une mission, c'est de là-bas qu'ils disent qu'ils ont rempli leur mission. Chez Nehemar, comme nous voyons dans un pasouk dans Iov, la maîtresse, c'est Akadosh Baruch Hu qui adresse de reproches à Iov parce qu'il doutait de la justice divine. Akadosh Baruch Hu lui dit, entre autres, Hateshalach brakim veyelechu viyomru lecha hinenu. Est-ce que tu as le pouvoir d'envoyer des éclairs, donc la foudre, et qu'ils aillent et qu'ils te disent nous voici? En fait, la Gemara constate, Yavou veyomru lo Nehemar. Le pasouk ne s'exprime pas en disant et ils viennent et ils te disent nous voici, comme il aurait dû le faire lorsque le pasouk parle de quelqu'un qui répond à un appel, et là veyelchu veyomru. Mais plutôt le pasouk s'exprime en disant et qu'ils aillent, et apparemment donc de là-bas ils te disent nous voici. Mais la med, nous pouvons déduire de ce pasouk shashrina b'chol makom, que la présence divine se trouve partout, et c'est pour cela donc que là où vont les éclairs, ils diront à Kadosh Baruch Hu nous voici. Ve'av Rabbi Ishmael savar shrina b'chol makom, même Rabbi Ishmael pense aussi que la présence divine se trouve partout. De Tana de Rabbi Ishmael, parce qu'il a été enseigné une braïta dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, Minayin sheshrina b'chol makom, d'où sait-on que la présence divine se trouve partout? Alors, la braïta répond, chez Nehemar, parce que le pasouk dit dans Zecharia Bet. C'est Zecharia qui raconte une prophétie dans laquelle il a vu un ange avec une corde de deux mesures. Alors, Zecharia l'a arrêté, lui a demandé, qu'est-ce que tu fais avec cela? L'ange lui a répondu, je vais prendre les mesures de la ville de Yerushalayim telle qu'elle sera reconstruite dans le futur. Alors le pasouk continue et dit, Hine hamalach hadover biyotze, voici l'ange qui me parlait sortait, donc en direction de la ville de Yerushalayim, ou malach acher yotze likato, et un autre ange sortait vers lui. Ce dernier, en effet, a été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour dire à Zecharia, comme quoi, contrairement au dire du premier ange, la ville de Yerushalayim serait sans limite. En tout cas, puisque les deux anges avaient été envoyés par Akadosh Baruch Hu, le pasouk constate Acharav lo Nehemar. Le pasouk ne s'exprime pas en disant et un autre ange sortait derrière le premier, comme il aurait dû le faire lorsqu'on parle de plusieurs émissaires envoyés par une même personne, et là likrato, mais plutôt le pasouk s'exprime en disant et un autre ange sortait vers lui, donc à sa rencontre. Dans ce pasouk, nous voyons donc finalement que même si les deux anges avaient été envoyés par Akadosh Baruch Hu, l'un de ces deux anges venait d'une direction et l'autre venait de la direction opposée. Mais la med, ce pasouk nous enseigne que Sheshrina b'chol makom, que la présence divine se trouve partout. Ve'av Rav Sheshet savar Sheshrina b'chol makom, et même Rav Sheshet aussi pense que la présence divine se trouve partout. Ve'amar le Rav Sheshet le Shamé, parce que Rav Sheshet disait à son valet, puisque lui-même était aveugle, il ne savait pas comment se diriger, le kol ruchata ukman. Tu peux me diriger vers n'importe quelle direction lorsque je m'apprête à faire la tefila, le bar mizrach, à part vers l'est. Velav mishum delet be shrina, et ce n'est pas parce que la présence divine ne se trouve pas à l'est, parce qu'en fait elle se trouve partout, comme nous l'avons dit, et là mishum de moruba miné, mais plutôt parce que les idolâtres qui adorent les astres disent que leur dieu se trouve vers l'est, et c'est vers là qu'il faut se diriger pour prier. Donc pour ne pas que les gens croient que je suis idolâtre, ne me dirige pas vers l'est lorsque je veux faire la tefila. Rabbi Abaou Amar, Shrina Bemaharav, la présence divine se trouve à l'ouest. De Amar Rabbi Abaou, Mai Uriah, que veut dire le terme de Uriah qui désignait l'ouest en perse? Aviria, l'air d'Akadosh Baruch Hu, en d'autres termes, c'est à l'ouest que la présence divine se trouve. Amar Rav Yehuda, Mai Dirtiv, que veut dire le pasouk dans Dvarim Lamed Bet, où Moshe Rabbeinu a comparé la Torah au vent venant de quatre coins du monde, et cela pour dire que de la même manière que les vents sont indispensables, la Torah l'est aussi. Donc, comment nous le voyons dans le pasouk? Rabbi Yehuda explique, Ya'arof kamatar likri, que mon enseignement frappe comme la pluie qui vient de l'ouest, zu ruach ma'aravit. Cette partie du pasouk fait allusion au vent de l'ouest, sheba me'orpo shelolam, qui vient de la nuque du monde, puisque partout nous voyons que l'avant désigne l'est et l'arrière désigne l'ouest. C'est pour cela donc que la Torah emploie ici le terme de Yaarov, dont la racine est Oref, la nuque, donc l'arrière. Nous voyons donc que le pasouk fait allusion au vent de l'ouest. Tizal katal imrati, que ma parole coule comme la rosée, zur ruach tzvonit. Cette partie du pasouk fait allusion au vent du nord, shemazelet et azav, qui fait perdre la valeur à l'or. En effet, le vent du nord a pour propriété d'éparpiller les nuages, par conséquent de causer la sécheresse et la famine. En cas de famine, nous considérons que la valeur de l'or baisse, parce que même celui qui en possède est prêt à le céder pour obtenir de la nourriture. Et nous voyons ainsi dans un pasouk, dans Yeshaya Memvav, cette même idée que nous considérons que l'or a perdu de sa valeur lorsqu'il est dépensé d'une manière exagérée. En effet, ce pasouk qui parle des idolâtres dit « Hazalim Zahav Mekif » ceux qui dévaluent l'or qui se trouve dans la bourse pour le donner à un artisan pour qu'il en fasse une idole. Donc là aussi, le pasouk considère que l'or a perdu de sa valeur parce que les idolâtres en utilisent beaucoup pour peu de choses, c'est-à-dire pour en faire une idole. Le pasouk dans Dvarim Lamed Bet continue et dit « Kishirim alé déchets » la Torah est comparée à l'action du vent sur l'herbage « Zur ruach mizrachit » cette partie du pasouk fait allusion au vent de l'Est « Shemas eret et kol haolam keseir » qui tourmente le monde comme les démons. En effet, lorsque Akash Baruch Hu veut punir le monde par la tempête, c'est le vent de l'Est qu'il emploie pour semer la destruction. Mais en général, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, le vent de l'Est est le vent le plus doux. Le pasouk continue et dit « Vechir vevim ale esev » et la Torah est comparée aux gouttes de pluie qui tombent sur les brins d'herbe. « Zur ruach dromit » cette partie du pasouk fait allusion au vent du sud « Shehi ma'ala revivim umegadelet asabim » parce que le vent du sud amène les nuages et la pluie et ainsi ce vent fait pousser l'herbe. Avant d'aborder le passage suivant de la Gemara, nous sommes obligés de faire une petite introduction. Nous savons que les sages de la Gemara, donc les Amoraïm, ont tiré leur sagesse de la Torah qui a été écrite par le Créateur du monde. Par conséquent, il est impossible de concevoir que ces Chachamim aient eu une conception erronée du système solaire et d'autres données scientifiques. Alors, lorsque nous sommes confrontés avec une Gemara qui semble contredire des données concernant le système solaire et d'autres lois de la nature telles qu'elles sont connues de nous et des scientifiques aujourd'hui, il existe deux solutions pour comprendre cette Gemara. La première solution, c'est de dire que les scientifiques se sont trompés. D'ailleurs, ce n'est que récemment que les savants ont découvert des choses qu'ils ignoraient auparavant et qu'on retrouve dans la Gemara. La deuxième solution, qui s'applique certainement dans le passage qui suit, c'est de dire, comme le dit le Ramchal, qui est rapporté dans la préface sur le Sefer En Yaakov, voire aussi dans la préface du Et Yosef sur ce même Sefer En Yaakov, c'est que les Chachamim ont parfois voulu transmettre une idée d'ordre spirituel dont la finesse et la profondeur ne peuvent être saisies que par le sage qui a atteint un haut niveau spirituel. Ils ont pour cela masqué leurs propos en utilisant pour illustrer leur idée des faits de la vie de tous les jours. Par exemple, comme dans notre cas, ils ont utilisé la marche du soleil, même si les faits ne sont pas entièrement justes, en laissant aux personnes ayant atteint un haut niveau spirituel le soin d'approfondir ce passage et d'en saisir le sens caché. Par exemple, dans l'autre cas, les Chachamim ont choisi pour véhiculer leur idée la marche du soleil telle que nous l'apercevons pendant la journée, tout en présentant sa course pendant la nuit, d'une manière qui nous semble fausse pour compléter leur image. Entre autres, le Maharal s'est penché sur ce problème et il a expliqué de nombreux passages obscurs de la Gemara, parmi eux, le nôtre. Pour appuyer leur idée, les Chachamim se sont même servis de psukim qu'ils ont interprétés en utilisant le principe de drash. Mais en fait, l'interprétation simple, donc le pshat de ce pasouk, n'est pas et ne peut pas être en contradiction avec la vérité absolue. Pour ne pas dévier du cadre simple de notre interprétation de la Gemara, nous nous contenterons de traduire simplement le passage qui suit, même si en ce faisant, le sens profond de ce passage restera inaccessible. Tanya, il a été enseigné dans une braïta. Rabbi Eliezer Omer, Olam, le monde.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kafé Amoudbet. L'Ar Sadra Houdome ressemble à un balcon dont le quatrième côté est entièrement ouvert. Ve ruach tzfonit ena mesuvevet, et le côté nord du monde n'est pas clôturé. Et Kivan Shegia Hama Etzel Keren Maravit Tfonit, et lorsque le soleil arrive au coin nord-ouest du monde, donc à la fin de sa course, en effet, le parcours du soleil est un parcours elliptique. Aux jours les plus longs, donc au solstice de l'été, le soleil se lève non pas à l'est mais au nord-est, puis il poursuit sa course dans la voûte céleste vers le sud pour se coucher ensuite au nord-ouest. Alors à la fin de sa course, Nirfefet Veola le Mala Minarakia, le soleil se plie pour remonter au-dessus de la voûte céleste pour parcourir le côté nord et réapparaître le lendemain matin au nord-est. Rabbi Yoshua Omer, Olam le Kuba Hudome. Le monde ressemble à une tente qui est fermée donc de quatre côtés, de Ruach Tzfonit Mesuvevet, et le côté nord est clôturé. Bekivan Shechama Magat le Keren Maharavit Tzfonit, lorsque le soleil arrive à la fin de sa course au coin nord-ouest, Makefet Vechoseret Achorekipa. Le soleil sort de la voûte céleste par une fenêtre et poursuit sa course en contournant la voûte céleste par l'extérieur pour réapparaître le lendemain matin au nord-est. Tout ceci pour expliquer pourquoi le soleil est invisible la nuit. C'est Nehemar, parce que le pasouk dit dans Kohelet Aleph, qui décrit la course du soleil, Holech El Darom, le soleil va vers le sud, Vesovev El Tzafon, et contourne le nord, Vegomer, etc. Alors, Rabbi Yoshua interprète le pasouk de la manière suivante, Holech El Darom, le soleil va vers le sud, Bayom, c'est pendant la journée. C'est-à-dire, le terme de Holech décrit la course du soleil pendant la journée. Vesovev El Tzafon, et le soleil contourne le nord, Balaila, c'est pendant la nuit. Le pasouk décrit donc la course du soleil pendant la nuit en utilisant le terme de Sovev, contourné, qui décrit la partie invisible du parcours du soleil. Sovev, Sovev, Holech Haruach, l'esprit du soleil contourne et contourne tout en marchant. Ve'al Svivotav Shav Haruach, et l'esprit du soleil retourne sur place, donc pour réapparaître le lendemain matin. Alors, lorsque le pasouk dit « Sovev, Sovev, Holech Haruach », il apparaît une contradiction, parce que le terme de « Sovev », comme nous l'avons dit, décrit le parcours du soleil pendant la nuit, alors que le terme de « Holech » décrit son parcours pendant la journée. Le problème est à savoir, quel est le côté qui, des fois, est parcouru par le soleil pendant la journée, et qui est aussi parcouru, des fois, uniquement pendant la nuit. Alors Rabbi Yoshua dit « Elu pne mezrach ou pne ma'arav », le pasouk fait ici allusion au côté est et au côté ouest, Shepamim Mesavavtam, qui des fois est parcouru par le soleil pendant la nuit, ou Pamim Mealartam, et qui des fois est parcouru par le soleil pendant la journée. En effet, au solstice de l'hiver, donc pendant les jours les plus courts, le soleil se lève au sud-est pour se coucher au sud-ouest. Donc finalement, le soleil ne parcourt que le côté sud de la voûte céleste. Au printemps ou en automne, le soleil se lève au milieu de l'est et se couche au milieu de l'ouest. Donc il parcourt une partie du côté est, le sud, et une partie du côté ouest. Au solstice de l'été, comme nous l'avons dit précédemment, le soleil se lève au nord-est pour se coucher au nord-ouest. Donc pendant la journée, le soleil parcourt à la fois le côté est de la voûte céleste, son côté sud et son côté ouest. En tout cas, puisque le pasouk décrit le côté nord en employant le terme de « sovev » comme il le fait pour décrire le côté est et ouest, alors que même Rabbi Eliezer était d'accord que ces deux derniers côtés étaient clôturés, apparemment donc cela veut dire que le côté nord est aussi clôturé, comme l'a dit Rabbi Yoshua. « Houaya Omer » il avait l'habitude de dire « Attends le Rabbi Eliezer, nous en revenons à l'opinion de Rabbi Eliezer. » Il interprète en effet le pasouk dans « Iov Lametzaïn » où Elihu adresse des reproches à Iov pour douter de la justice divine. Alors le pasouk dit « Mina cheder tavo soufa » de l'intérieur de la chambre provient la tempête. « Zur ruach dromit » cette partie du pasouk fait allusion au vent du sud. En effet, puisque selon Rabbi Eliezer, le côté nord est ouvert, donc le côté sud est considéré comme l'intérieur de la chambre. « Umim zarim kara » et du côté ouvert provient le froid. « Zur ruach tfonit » il s'agit du vent du nord. Minishmatkel yiten kerach, du souffle d'Akadosh Baruch Hu, il donnera la glace pour punir le monde. Zur ruach maravit, il s'agit du vent de l'ouest. En effet, comme nous l'avons dit précédemment, la présence divine se trouve à l'ouest. Verochav Maim Bemutzak, et de la largeur provient l'eau en bloc. Zur Ruach Mizrachit, cette partie du pasouk parle du vent de l'Est qui amène des torrents de pluie. Alors la Gemara demande, Veha Amarmar, pourtant, Rav Yuda a dit plus haut, comme nous l'avons vu, Ruach Dromit Ma'ala Revivim Umegadelet Asavim, le vent du sud amène la pluie et ainsi fait pousser l'herbe. En tout cas, nous voyons que la pluie provient du sud et non pas de l'Est. Lagma répond, l'Akashia, il n'y a pas de contradiction. Ha de Atia Mitra Benichuta. Rav Yuda parlait dans un cas où la pluie venait avec douceur. Dans ce cas, c'est le vent du sud qui l'emmène. Ha Beshvichuta. Alors que dans la Braïta que nous venons de voir, il s'agit d'une pluie qui tombe à torrent. Celle-ci, c'est le vent de l'Est qui l'emmène pour punir le monde. Amar Rav Chisda, Maïdirtiv. Que veut dire le pasouk dans Iov Lamedzaïn? Mitzafon Zahav Yehete. C'est du nord que l'or provient. Rav Chisda explique, Zur Ruach Tzfonit, ce pasouk fait allusion au vent du nord, chez Mazelet et Tazahav, qui fait perdre la valeur à l'or. En effet, comme nous l'avons dit précédemment, le vent du nord a pour propriété de chasser les nuages, donc de causer la sécheresse, et par conséquent la famine. Ainsi donc, le prix de la nourriture augmente, et ceux qui possèdent l'or sont prêts à en donner n'importe quelle quantité pour obtenir de la nourriture. Finalement donc, l'or perd son pouvoir d'achat. Le pasouk considère que celui-ci a perdu de sa valeur. Le pasouk donc veut dire que ceux qui possèdent de la nourriture s'enrichiront lorsqu'il y aura le vent du nord qui amène la famine. De Chenu Omer, nous voyons aussi cette idée dans un autre pasouk qui considère que l'or a perdu de sa valeur lorsqu'il est dépensé d'une manière excessive. En effet, le pasouk dit dans Yeshaya Mempav, concernant les idolâtres, Hazalim Zahav Mekis, ceux qui font perdre la valeur à l'or qui se trouve dans une bourse, lorsqu'ils en donnent en grosse quantité aux artisans pour fabriquer des idoles. Amar Rafram Bar Papa, Amar Rafrizda, Miyom Shecharav Bet Amikdash, à partir du jour où le Bet Amikdash a été détruit, Lo Hukshema Ruach Dromit, le vent du sud n'amène plus la bonne pluie qui est bénéfique pour le monde. Shenemar, comme nous voyons dans un pasouk dans Yeshaya Tet, où Yeshaya prophétise les malheurs qui s'abattront sur le clan d'Israël, et en plus des ennemis qui les attaqueront, ils s'attaqueront entre eux. Le pasouk dit donc, « Vaïxor al-Yamin Veraev, il s'attaquera à celui qui se trouve à sa droite pour piller sa nourriture, et il sera toujours affamé, parce que cette personne qui a été volée n'en possédait pas assez. « Vaïochal al-Smol velosaveu, il s'attaquera à celui qui se trouve à sa gauche pour manger sa nourriture, et il ne sera toujours pas rassasié. » Uktiv, et un autre pasouk dit dans Tehilim Petet, Tsafon veyamin ataberatam, le nord et la droite, c'est toi qui les as créés. Donc, puisque ce pasouk parle de deux directions opposées, nous pouvons déduire que le sud est désigné par la droite, et le nord est désigné par la gauche. Alors, Rav Chisda interprète le pasouk de la manière suivante. Akosh Baruch Hu a décrété sur la droite, donc sur le sud, et qu'il y ait la famine. En d'autres termes, le vent du sud n'emmènera pas la pluie. Et lorsqu'il mangera avec ce qui provient de la gauche, donc du côté nord, ils ne seront pas rassasiés, parce que comme nous l'avons dit, le vent du nord n'amène pas non plus la pluie. Ve'amar Rafram Bar Papa Amar Rav Chisda, Miyom Shecharav Bet Amikdash, à partir du jour où le Bet Amikdash a été détruit, En Hagshamim Yordim Me'otzar Tov, la pluie qui tombe ne provient plus du coffre de la bonté. Shenehema, parce que le pasouk dit dans Dvarim Kafret, dans les bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu accordera aux Bnei Israël lorsqu'ils accompliront sa volonté, le pasouk dit, Yiftach Hashem lecha et otzaro atov, Akadosh Baruch Hu t'ouvrira le coffre de la bonté, le pasouk conclut en disant, pour te donner la pluie. Nous pouvons donc déduire de là, Bizman chez Israël osin retsono shel makom, lorsque les Bnei Israël accomplissent la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Israël shuruin anad matan, et les Bnei Israël habitent leur terre donc en Eretz Israël, Geshamim Yordim et Otsartov, la pluie qui tombe provient du coffre de la bonté. Bizman chez Israël shuruin anad matan, mais lorsque les Bnei Israël n'habitent pas leur terre donc en Eretz Israël parce qu'ils n'ont pas accompli la volonté d'Akadosh Baruch Hu, en Geshamim Yordim et Otsartov, la pluie qui tombe ne provient plus du coffre de la bonté. Amar Rabbi Yitzhak, Harotze Shiarkim, celui qui veut obtenir la sagesse, Yadrim, il n'a qu'à se diriger vers le sud lorsqu'il fait la tfila. Veshi Hashir, celui qui veut obtenir la richesse, Yatspin, il n'a qu'à se diriger vers le nord lorsqu'il fait la tfila. Vesimaner, et voici un signe pour éviter les confusions. Shulchan Betzafon, la table qui se trouvait dans le Beth Amikdash, qui représente la richesse, se trouvait au nord du Beth Amikdash, au Menorah Batzafon, et la lampe, donc la Menorah, qui représente la sagesse, se trouvait au sud du Beth Amikdash. Rabbi Yehoshua ben Levi Amar, le Olam Yadrim. Une personne devra toujours se diriger vers le sud lorsqu'il fait la tfila, Shemitor, Shemitrakem, parce que lorsqu'il devient sage, Mitacher, il s'enrichira aussi. Shenehemar, parce que le Pasuk dit dans Mishle Gimel, Orech Yamim Bimina, à la droite de la Torah se trouve la longue vie, Bismola, Osher Vekavod, et à sa gauche se trouvent la richesse et les honneurs. Donc celui qui a obtenu la Torah obtiendra en même temps la richesse et les honneurs. Alors la Gemara demande, Vehar Rabbi Yehoshua ben Levi Amar, Shrina Bemaharav. Pourtant Rabbi Yehoshua ben Levi disait que la présence divine se trouvait à l'ouest, et c'est vers cette direction qu'il faut se diriger lorsqu'on veut faire la tfila. La Gemara répond, De Metzaded Atzdoudé. Même s'il doit se diriger vers l'ouest, il peut se tourner un tout petit peu vers le sud, donc se diriger vers le sud-ouest pour faire la tfila. Amarle Rabbi Hanina le Ravashi. Kegon Atun de Atvitu Betzfona d'Eretz Israël. Par exemple, vous qui habitez en Bavel, donc au nord d'Eretz Israël, Adrimu Adrumé, dirigez-vous vers le sud pour faire la tfila. Umenalan de Bavel Letfona d'Eretz Israël Kaima. D'où sait-on que la terre de Bavel se trouve au nord d'Eretz Israël? L'Agma répond, dirtiv, parce que le Pasuk dit dans Yirmiya Alef, qui prophétise la destruction prochaine d'Eretz Israël par les Babyloniens, Mitzafon Tipatar Hara'a al Kol Yoshvei Aretz. C'est du nord que s'ouvrira le malheur sur les habitants de la terre. Nous voyons donc que le pays de Bavel se trouve au nord d'Eretz Israël, et c'est par là qu'il commencera à attaquer. Il est vrai que, comme le précise le Tosfot dans Bechorot Dafnunhe Amudbet, que les Amoraïm savaient que le pays de Bavel se trouvait à l'est d'Eretz Israël. D'ailleurs, les habitants de Bavel, lorsqu'ils désignaient la terre d'Eretz Israël, employaient le terme de Bema Arava, à l'ouest. Cependant, la Gemara ici nous enseigne que la terre de Bavel se trouvait aussi au nord d'Eretz Israël. Donc en fait, la terre de Bavel est située au nord-est d'Eretz Israël. Rabbi Hanina a voulu dire à Rabashi que non seulement il faut se diriger vers l'ouest, mais aussi vers le sud pour pouvoir prier en direction d'Eretz Israël. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la Braïta l'enseigne dans Brachot Daf Lamed. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Marchikin et Hamishra min Hayerek ». Il faut éloigner le bassin où on laisse tremper le lin, des légumes, etc. Entre autres, la Mishnah nous dit qu'il faut éloigner la plantation de moutarde de ruches d'abeilles. Nous avons vu aussi l'opinion de Rabbi aussi qui dit qu'il est permis de planter de la moutarde à proximité de ruches d'abeilles. Alors, l'Agmar a dit là-dessus, Tana, il a été enseigné dans une braïta. Rabbi aussi, Matir Bechardal, Rabbi aussi permet de planter de la moutarde à proximité de ruches d'abeilles, chez Achol le Marlo, parce que cette personne peut dire au propriétaire des ruches d'abeilles, avant de me dire, éloigne ta moutarde de mes abeilles, moi je te dis au contraire, éloigne-toi tes abeilles de ma moutarde. Parce que lorsqu'elles viennent butiner, elles mangent les jeunes pousses de mes plants de moutarde. Elles me causent donc des dégâts. Par conséquent, ou tu t'éloignes toi aussi de manière à partager l'écart nécessaire pour éviter les dégâts causés mutuellement par les abeilles et la moutarde, ou bien, si tu ne veux pas t'éloigner, moi aussi, je ne m'éloignerai pas de tes abeilles, je suis prêt donc à supporter les dégâts causés par tes abeilles, et tu seras aussi obligé de supporter ceux causés par ma moutarde. En d'autres termes, il n'y a pas de raison que ce soit moi qui doive m'éloigner de la totalité de la distance pour éviter les dégâts, puisque toi aussi tu causes des dégâts à ma moutarde. Nouvelle Mishnah. Marchikin et Hailan Minabor et Srim Vechamesh Ama. Il faut éloigner la plantation d'un arbre du puits du voisin d'une distance de 25 coudées. Et cela parce que les racines qui pousseront par la suite dans un rayon de 25 coudées endommageront le puits. Ou Becharouv ou Bechikma Chamishim Ama. Et lorsqu'il s'agit d'un caroubier ou d'un sycomore, il faut s'éloigner d'une distance de 50 coudées parce que les racines de ces arbres s'étendent jusqu'à 50 coudées. Ben milemala, ben minatsad. Et ces distances doivent être respectées, soit dans le cas où cet arbre et ce puits sont à flanc de montagne, donc l'un est plus haut que l'autre, soit s'ils sont sur le même plan, donc l'un à côté de l'autre. Im habor kadma, si c'est le puits qui a été creusé en premier, donc avant la plantation de l'arbre, Kotsetz Venoten Damim. Il devra couper son arbre, mais le propriétaire du puits devra lui donner de l'argent pour le dédommager pour la perte de son arbre. Et ce, bien qu'il avait planté son arbre sans respecter les distances imposées par les Chachamim, parce que nous pouvons considérer qu'il lui était permis de planter cet arbre, étant donné que les racines ne causent des dégâts que longtemps après la plantation de cet arbre. C'est pour cela que les Chachamim ne l'ont pas obligé à couper son arbre sans recevoir de dédommagement, puisqu'il ne s'agit de dégâts causés uniquement à un particulier. Ve'im ilan kadam, et si c'est l'arbre qui a été planté en premier, donc avant que le puits ait été creusé, lo yakutz, il n'aura pas l'obligation de couper son arbre. Safek zekadam ve safek zekadam, s'il y a un doute, si c'est celui-ci qui est venu en premier ou c'est l'autre qui est venu en premier, lo yakutz, il n'aura pas l'obligation de couper son arbre. Rabbi aussi Omer, afalpi shabor kodem et laylam, bien que le puits ait été creusé avant la plantation de l'arbre, lo yakutz, il n'aura pas l'obligation de le couper. Parce que celui-ci creuse son puits dans son domaine et l'autre plante son arbre dans son domaine. En d'autres termes, il est impossible de défendre à quelqu'un d'utiliser sa propriété comme il entend, donc par exemple planter un arbre, même si par la suite son voisin sera dérangé par les racines de celui-ci. Alors la Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit que ces distances entre l'arbre et le puits doivent être respectées, même s'il se trouve à flanc de montagne et l'un se trouve plus haut que l'autre. Alors Tana, il a été enseigné dans une braïta pour expliquer cette partie de la Mishnah. Ben shehabor le mata veilan le mala, soit dans le cas où le puits se trouve en bas et l'arbre se trouve plus haut, sur le flanc de la montagne, ben shehabor le mala veilan le mata, soit dans le cas où le puits se trouve en haut et l'arbre est planté plus bas. Dans ces deux cas, ces distances devront être respectées. Alakmar demande, Bishlama bor le mata veilan le mala. On comprend bien encore dans le cas où le puits se trouve en bas et l'arbre se trouve plus haut. On comprend pourquoi cette distance doit être respectée. Parce que Kazlin Shorashin Mazkela le bor. Parce que lorsque les racines pousseront, ils abîmeront les parois du puits et celui-ci risque de s'effondrer. Et la bor le mala veilan le mata. Mais dans le cas où le puits se trouve en haut et l'arbre se trouve plus bas, Amai, pourquoi est-ce qu'il faut quand même éloigner l'arbre d'une distance de 25 coudées, puisque les racines de l'arbre n'atteindront jamais les parois du puits? L'agma répond, Amar Rabbi Chaga b'shem Rabbi aussi, Mipnei shemachlidin et akarga, parce que lorsque les racines s'étendent donc dans un rayon de 25 coudées, elles ameublissent la terre, ou malkin kankaita shelbor, et elles risquent d'abîmer le fond du puits. C'est-à-dire, le fond du puits étant devenu meuble, l'eau risque de s'infiltrer et d'être absorbé par la terre, le puits ne pourra donc plus retenir l'eau dont il est rempli. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Rabbi Yossi Omer, Afal Pishabor Kodem et Lailan, Lo Yakutz. Bien que le puits ait été creusé avant la plantation de l'arbre, il n'aura pas l'obligation de le couper, chez Echofer Betor Shelo, Vezenoter Betor Shelo, parce que celui-ci creuse son puits dans son domaine, et celui-ci plante son arbre dans son domaine. Amar Rabbi Yudam Shmuel, Halacha Ke Rabbi Yossi. La Halacha est comme Rabbi Yossi. Donc, finalement, la halakha sera qu'il n'aura pas l'obligation de couper son arbre. Amar Ravashi, ki hava'an be Rav Kahana, quand j'apprenais la Torah au Bet HaMidrash de Rav Kahana, hava amrinan, nous avions l'habitude de dire, modé Rabbi Yossi be geredide, Rabbi Yossi est d'accord que le voisin doit prendre ses précautions dans le cas de dégâts causés immédiatement par ses actions. Papi Yonaha, papi de la ville de Yona, ani be Shirava, était un pauvre qui s'est enrichi. Bana Padna, il s'est construit un palais. Havu Hanach Atsure Beshibute, il y avait dans son voisinage des fabricants d'huile de sésame, des Rihavu Daike Shumcheme, lorsqu'il broyait les sésames avec une meule pour en extraire l'huile, Hava Naida Apadne, son palais tremblait. Ata le Kameh de Rabashi, il s'est présenté devant Rabashi pour se plaindre. Amarle, Rabashi lui a dit que Havan Beravkana, quand j'étais au Beit HaMidrash de Rav Kahana pour apprendre la Torah, Havam Rinan, nous avions l'habitude de dire, Modé Rabbi Yossi Begeredile. Rabbi Yossi est d'accord que le voisin doit prendre ses précautions lorsqu'il s'agit de dégâts causés immédiatement par ses actions. Donc dans ce cas où c'est par l'action de ces producteurs d'huile que ton palais tremble, ils devront s'éloigner. En fait, comme le précise le Tosfot, le chidouche ici est que bien que ces producteurs d'huile ne pouvaient pas penser que papy s'enrichirait, ils avaient donc tout à fait le droit d'installer une meule pour broyer les grains de sésame, Cependant, maintenant que la situation a changé et ils gênent leurs voisins, ils auront l'obligation de s'éloigner. Alors la Gemara demande Vekama, combien doit trembler ce palais pour qu'ils aient l'obligation de s'éloigner?
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.